Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'absolue transparence, c'est ce que dit vouloir Édouard Philippe après l'incendie de l'usine Lubrizol. Le chef du gouvernement s'y est rendu hier soir. Il est confronté à l'inquiétude des habitants de Rouen et des policiers qui redoutent des conséquences sur la santé des agents mobilisés la nuit de l'incendie.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale repoussé à 2023, le retour à l'équilibre zoom ce matin sur les dépenses consacrées à la dépendance jugée insuffisante selon certaines associations.
La stupeur hier au tribunal de Rabat, une journaliste marocaine a été condamnée à 1 an de prison ferme pour avortement illégal. Reportage de notre correspondante. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, le procès du Dieselgate, Margot, est-ce la fin de l'âge d'or de l'automobile allemande? On posera la question à Samuel Klebaner, il est chercheur rattaché à l'université de Bordeaux.
Le Premier ministre est venu convaincre la population que les odeurs ne sont pas nocives et promettre la transparence. Édouard Philippe s'est rendu hier soir sur le site de l'usine chimique Lubrizol qui a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, dégageant à Rouen un impressionnant panache de fumée noire. Le chef du gouvernement dit comprendre les inquiétudes, mais assure que la qualité de l'air n'est pas en cause.
Depuis la survenue de ce sinistre, nous avons mis en ligne et communiqué toutes les informations qui étaient en notre connaissance, dès que des analyses sont réalisées et dès que nous disposons des résultats de ces analyses, elles sont communiquées. Nous allons continuer à procéder de la sorte. Un certain nombre d'autres analyses doivent arriver au fur et à mesure qu'elles sont réalisées. Nous ne pouvons pas donner les résultats avant qu'elles soient terminées. Mais dès qu'elles seront réalisées, nous donnerons et nous communiquerons l'ensemble des résultats. Je comprends parfaitement l'inquiétude qui s'exprime, mais je veux dire que nous voulons faire sur cet événement, sur ses causes et sur ses conséquences, l'absolue transparence.
Édouard Philippe, qui promet aussi la mise en place d'indemnités pour les agriculteurs touchés au-delà de la Normandie. Les récoltes des cultures et des denrées d'origine animale sont suspendues. Il n'y a pas que les agriculteurs qui s'inquiètent, la police également. Les syndicats redoutent des conséquences sur la santé des agents qui sont intervenus les premiers sur les lieux de l'incendie. Des fonctionnaires affirment avoir été pris de nausées. Ils réclament un suivi médical de tous les effectifs mobilisés sur ce site classé Céveso. Les précisions de Christine de France Bleu Normandie.
Depuis jeudi matin, les syndicats de police ont reçu plusieurs témoignages de collègues incommodés depuis qu'ils sont intervenus sur le site. Frédéric Deguerre du syndicat SGP Police.
On a quelques collègues qui nous ont saisis en disant que après leur travail, ils ont été pris de malaise et de vomissements, donc ils ont consulté les urgences. Eux, ils ont le sentiment, effectivement, d'avoir été exposés.
Les premiers fonctionnaires sur place sont arrivés sans protection avant que les pompiers ne leur distribuent des masques en milieu de matinée. Le syndicat demande des explications alors même que le matériel existe pour équiper les policiers en cas de risque.
Peut-être qu'on aurait pu distribuer par cellule de précaution les masques à gaz adaptés, puisque ça fait partie des protocoles de la police nationale en cas d'incident sur un site Céveso.
Un autre syndicat de fonctionnaires exige, lui, un bilan de l'état de santé des effectifs mobilisés sur l'incendie. Guillaume Bonnet de Valville est le représentant d'Alternative Police CFDT.
Nous, on demande effectivement à ce qu'il y ait un suivi médical des collègues primo-intervenants, une prise de sang pour vérifier leur constante.
Une rencontre est organisée aujourd'hui entre le directeur de la sécurité publique et les syndicats. Selon SGP Police, certains fonctionnaires seraient prêts à saisir la justice pour violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. Mais pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée.
Et hier, c'est la direction de l'usine qui a confirmé avoir déposé plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie par violation délibérée d'une obligation de sécurité. Le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire. Pour avoir transmis des documents confidentiels au député Thierry Soler à propos d'une enquête pour fraude fiscale qui le visait, l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a été condamné hier à 1 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. La Cour de justice de la République l'a reconnu coupable de violation du secret professionnel. On y reviendra dans le journal de 7h30 sur France Culture. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été dévoilé hier par le gouvernement. Il repousse à 2023 le retour à l'équilibre pourtant promis pour 2019. Deux raisons à cela. D'abord, les mesures dites gilets jaunes et des rentrées moins importantes que prévues dues à une conjoncture économique moins favorable qu'espérée. Quant aux dépenses pour le grand chantier de la dépendance, elles s'élèvent à 500 millions d'euros, une goutte d'eau selon certaines associations, Anne Lorchouin. C'est une première étape, selon le gouvernement, en l'occurrence 500 millions d'euros pour amorcer la réforme du grand âge et de l'autonomie. Ce grand chantier qui sera l'objet d'un projet de loi spécifique en fin d'année. 500 millions d'euros, dont une partie sera allouée sur 2 ans à l'augmentation des personnels en EHPAD, via une réforme de la tarification. D'autres dépenses iront aux aides à la rénovation des établissements, à la formation des aides-soignants en gérontologie ou encore au soutien à l'aide à domicile. Autre mesure, une allocation journalière pour les salariés aidants, ceux qui doivent quitter le travail pour prendre soin d'une personne âgée dépendante. Allocation qui pourrait monter jusqu'à 52 euros par jour pour une personne seule. Le gouvernement estime qu'un effort réel est donc fourni pour financer la dépendance en attendant le gros des décisions en fin d'année. Mais la prise en charge de la perte d'autonomie représente, et le gouvernement le sait bien, un budget gigantesque, abondé par qui ? Plusieurs associations et fédérations du secteur médico-social ont leur petite idée et elles ont écrit en ce sens au Premier ministre. Elles proposent d'utiliser une partie des recettes de la CADES, la caisse qui gère le remboursement de la dette de la Sécurité sociale, ce qui signifierait repousser en 2025 ou 2026 l'apurement du trou de la Sécu, quand le gouvernement, pour l'instant, souhaite un retour à l'équilibre dès 2023.
Anne-Laure Chouin.
7h06, vous écoutez les matins de France Culture avec le journal de Margot Delpierre. Une journaliste marocaine a été condamnée hier à 1 an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage.
C'est le choc pour Aja Rasouni, 28 ans, et son fiancé, condamné à la même peine. La jeune femme avait été interpellée fin août devant un cabinet médical. Une affaire qui a suscité l'indignation au Maroc et à l'étranger. Le public dans la salle d'audience était stupéfait à l'annonce du verdict. Reportage de notre correspondante Théa Olivier au tribunal de Rabat.
À l'annonce du verdict, les proches de Aja Rasouni et des 4 autres prévenus sont sous le choc. Certains fondent en larmes, d'autres crient le nom de Hajar, le bras levé et les doigts en V. Son oncle est rédacteur en chef du journal où elle travaille. Souleymane Rasouni sort de la salle d'audience, le regard vide.
Je trouve que le jugement est dur et injuste. L'opinion publique marocaine et internationale dit que Hajar accusé de ses opinions, accusé de ses positions, les positions du journal dont il travaille, de sa famille. On a trouvé aujourd'hui ça dans le jugement de condamnation.
Présente pendant tout le procès, la féministe Ibtissam Lajgar n'est pas étonnée du verdict.
À côté du fait que ce soit un procès politique, c'est indiscutable, mais c'est le procès d'une femme. La victime est une femme et les femmes sont victimes de ces lois et de ces pratiques rétrogrades et misogynes. Ce qui est encore moins étonnant, c'est que ça concerne les droits sexuels et reproductifs, à savoir la liberté sexuelle et le droit à l'avortement, et qui sont donc inexistants, et encore moins pour les femmes.
Le médecin, accusé de pratique d'avortement illégal, a lui été condamné à 2 ans de prison ferme. Les avocats ont déjà décidé de faire appel de cette décision de justice.
La Chine célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la fondation du régime communiste. Autant de coups de canon ont été tirés ce matin depuis la place Tiananmen à Pékin. À Hong Kong, la police patrouille dans les rues et les transports. Les manifestants qui se mobilisent quasi quotidiennement depuis le mois de juin ont l'intention de mener des actions en cette journée de la colère, comme ils l'ont surnommée. Cette région autonome du sud de la Chine est secouée depuis le mois de juin donc par une crise politique. La crise au Pérou, cette fois, le président Martin Vizcarra a dissous hier le Parlement du pays, dominé par l'opposition. Les députés ont riposté en votant pour 1 an la suspension du chef de l'État. Il devrait voter une motion vendredi pour le destituer définitivement. Camille Magnard nous en reparlera dans sa revue de presse internationale à 7h35. Donald Trump, visé lui aussi par une procédure de destitution, donne l'impression de perdre pied. Le président américain a suggéré hier de faire arrêter un élu démocrate pour trahison. Le Congrès enquête sur les éventuelles pressions exercées par Donald Trump sur son homologue ukrainien. Il lui a demandé de se renseigner sur le fils de Joe Biden, ex-vice-président et rival politique. Après un dernier hommage hier à l'ancien chef de l'État Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice à Paris, l'actuel président de la République Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Strasbourg. Il vient commémorer le 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, une institution qui ne fait pas partie de l'Union européenne et que souvent on confond avec le Conseil européen. Il réunit les dirigeants des États membres ou encore le Conseil de l'UE, sorte de Conseil des ministres. Cécile de Kervas-Doué nous aide à y voir plus clair.
We must recreate the European family, and the first practical step would be to form a council.
C'est ce discours de Winston Churchill à l'université de Zurich en 1946 qui a posé les bases de la création d'un Conseil de l'Europe. Pour le Premier ministre britannique, la seule manière de ne plus avoir de guerre fratricide sur le continent est de recréer une famille européenne qui doit s'appuyer, dit-il, au minimum sur un Conseil de l'Europe. C'est donc à Londres que la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède signent le 5 mai 1949 le traité qui instaure cette organisation dont les objectifs sont de garantir la paix, de promouvoir la démocratie, de défendre les droits de l'homme et la diversité culturelle. Son principal organe, le plus connu aussi, sera créé 10 ans plus tard. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, l'instance de dernier recours pour toute personne jugeant ses droits fondamentaux bafoués, l'instance dont les avis sont contraignants. Sa plus grande réalisation est l'abolition de la peine de mort, qui est un préalable à toute adhésion au Conseil. En 70 ans, le Conseil de l'Europe est passé de 10 à 47 États membres. Les 28 membres de l'Union européenne en font partie, aux côtés par exemple de la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie ou encore la Russie. Et c'est au Conseil de l'Europe que s'est jouée la récente crise qui a opposé Européens et Russes après l'annexion de la Crimée en 2014. Le Conseil a suspendu le droit de vote du pays qui a répondu en supprimant ses versements annuels de 33 millions d'euros. Mais cet été, le Conseil, en pleine crise financière, a finalement décidé de réintégrer la Russie.
Sa voix sombre et majestueuse a fait son succès mondial. La cantatrice américaine Jessie Norman est morte hier à 74 ans. La soprano s'est éteinte à New York à la suite d'une septicémie. Son portrait à suivre dans le journal de 8 heures. Toujours de la pluie et du vent sur la façade atlantique. Aujourd'hui, la pluie qui va traverser le pays d'ouest en est au fil de la journée. Vous aurez au maximum cet après-midi 19 degrés à Metz, La Rochelle et Lille, 20 à Paris et Vesoul et 25 à Marseille.